Amen. Merci les frères, merci. Bravo, 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 bravo. Vous pouvez vous asseoir les musiciens, je vais commencer. Tout le monde va bien ce matin? Gloire à Dieu, moi aussi, il fait beau, hein, vous avez vu, c'est l'été normand. Bonjour à Philippe et Marie-Claire, nos Josué et Caleb qui nous préparent tout là-bas. Bon courage à vous, Dieu vous bénisse. Il vous bénit et il nous bénit aussi, on est très heureux, très contents. Est-ce que je prends le micro? Non, il n'y a pas besoin, vous m'entendez, hein? Ça va, c'est bien. Voilà, on va prier, on va se lever, on va remercier Dieu. Notre Seigneur, nous te remercions pour ta parole de ce matin, pour ce culte que nous venons te rendre, parce que tu es digne de louange, d'adoration. Nous te remercions pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Jésus. Sois béni mon Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai des bonnes nouvelles. Vous savez qu'avec Dominique, on était allé il y a un peu plus d'un an à Fairmount, une ville magnifique où se trouvent deux musées de James Dean là-bas, et puis nous voulions faire un cadeau au musée, à un des deux musées, nous voulions faire cadeau du buste de James Dean fait par notre ami Marino Manca, qui est un sculpteur qui sort de la prestigieuse école Boulle. Et le cousin de James Dean est venu au musée et il était très touché de voir le buste. Il l'a pris et il s'est taillé chez lui avec et il ne veut pas le donner au musée. Parce qu'il le trouve tellement beau qu'il ne veut pas le donner au musée. Alors bon, c'était un petit peu embêtant. Le directeur du musée était un peu embêté et c'est devenu un ami. Depuis, on correspond, on se parle tous les jours. Sur Internet, grâce à... Vous savez, avec Reverso, on peut traduire ce qu'on se dit. Donc, je parle un anglais maintenant magnifique, n'est-ce pas, avec, grâce à Reverso sur Internet. Et lui, il parle un français magnifique et on peut correspondre. Et donc, le directeur de ce musée est un pasteur à la retraite. Donc, on s'entend bien, on parle du Seigneur, et on parle de James Dean aussi, c'est pas interdit. N'est-ce pas que c'est pas interdit? C'est interdit? Non, c'est pas interdit. Donc là, comme le 30 septembre, ça va être... un triste anniversaire, ça va être l'anniversaire de la... Ça fera 60 ans que James Dean s'est tué sur la route. Enfin, il s'est pas tué, il s'est fait tuer par un chauffard. Lui, il roulait très doucement parce qu'il venait de se faire arrêter pour excès de vitesse. Donc, il est parti tout doucement, il roulait tout doucement. Et puis, il y a une voiture qui ne l'a pas vu et qui a tourné devant lui et il y a eu la collision et il est décédé là. C'est dramatique, ça fait 60 ans. Donc, il va y avoir énormément de personnes. Tous les 30 septembre, il y a des milliers de personnes qui vont à Fairmount. Et là, cette année, pour les 60 ans, ça va être la folie. Il va y avoir énormément de gens qui vont aller. Et alors, j'ai décidé d'envoyer le bus, encore une autre copie, mais cette fois pour le musée. Donc, ça y est, j'ai reçu les photos hier soir. Il est dans le musée. Donc, mon ami Marc Kinnaman est très content. Et il m'a envoyé ses photos. Et alors, maintenant, des milliers de personnes vont pouvoir le voir. Et puis, on va certainement le commercialiser, ce qui va faire que ça va m'aider pour mes missions, n'est-ce pas, pour aller en Afrique, à gauche, à droite, le fait de vendre ce buste. Et ben voilà, c'est une bonne chose. Non, ce n'est pas une bonne chose. Si, gloire à Dieu. Dieu nous donne des idées et puis les idées deviennent des choses magnifiques. Donc, je voulais vous le dire parce que c'est arrivé cette nuit. Vous savez que pendant la nuit, là-bas, c'est le jour. Donc, il m'a envoyé ses photos. Il est tout content, tout réjoui avec le buste. Et c'est magnifique. Donc, les gens vont pouvoir l'acheter. Voilà. Et puis, ce n'est pas tellement cher. Le port n'est pas tellement cher. J'ai vu, c'est parfait. Il n'y a pas trop de difficultés. Les gens vont pouvoir facilement obtenir ce buste. Gloire à Dieu, c'est bien. Amen. Et puis bon, ceux qui disent que c'est de l'idolâtrie, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est simplement, on aime les belles choses, c'est tout. Hein, voilà. Alors, ce matin, j'ai un message pour vous. Et j'ai médité, réfléchi, pensé, prié. Et puis voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, donc pour vous ce matin. C'est dans Matthieu chapitre 5, versets 27-28. Est-ce qu'on peut ouvrir un peu une fenêtre? Il fait très chaud là-dedans, vous ne trouvez pas? Une ou deux, que ça fasse un courant d'air, puisqu'on ne croit plus aux orgelets. Nous prions aussi pour notre frère Francis Bélanger, le pauvre, il a eu un AVC. Et il est à l'hôpital, là, on prie pour lui, que Dieu le bénisse et parle à son cœur et que voilà, les choses rentrent dans l'ordre. Hein. Il est resté 3 jours quand même avant d'être soigné. Et ça, c'est un peu embêtant. Un AVC, il faut le soigner rapidement d'habitude. Enfin là, Dieu l'a gardé puisque bon, maintenant il recommence à bouger son bras gauche. Et je crois que sa bouche est redevenue normale aussi, d'après ce qu'il me dit. Et voilà, il est très, très affecté par ça, c'est certain. Et voilà, nous prions aussi pour lui. Merci Seigneur de le bénir. Merci mon Dieu de bénir ta parole. Merci Jésus pour tout ce que tu nous accordes dans ton amour. Amen. Matthieu chapitre 5, versets 27-28. Alors, je lis 27. Vous avez appris, c'est Jésus qui parle, hein, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. C'est qui a dit ça? C'est Dieu ou c'est Moïse? Si c'est Moïse qui dit, c'est que c'est Dieu. Voilà. Hein? Vous avez appris que il était dit que tu ne commettras point d'adultère. Et Jésus dit, mais moi, je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mon frère. Savez-vous que... Bon, vous êtes conscient, vous savez que vous avez un conscient, ça vous le savez, puis je vous ai déjà souvent enseigné sur le conscient, le subconscient, et au cas où vous ne sauriez pas, peut-être des gens qui viennent sur Internet et qui ne connaissent pas bien, peut-être vous ne savez pas que vous avez un inconscient, ben oui, vous avez un inconscient. Et ces deux parties de vous sont deux choses liées à votre être, et on ne peut pas faire sans tenir compte de cela. Beaucoup de gens agissent sans tenir compte de cela. Et alors, il leur arrive des trucs, ils se demandent pourquoi. La relation de l'inconscient au conscient, c'est pareil que la relation qui existe entre l'atmosphère et les girouettes. C'est bien comme image, hein? Vous n'êtes pas obligé de croire ça pour être sauvé, hein? c'est pas une obligation, il n'y a pas obligation de croire ça pour être sauvé. Mais... ça peut vous sauver d'un tas de problèmes. Si vous croyez ça, si vous écoutez ce que je vous dis, si vous mettez en pratique ce que je vous dis, ça peut vous sauver d'un tas de difficultés. Sur le château, vous avez remarqué, on a une magnifique girouette. Et là où on va aller, on en aura une autre. J'ai déjà dessiné, c'est tout à fait dans le style, c'est magnifique. Et la moindre pression de l'atmosphère, du vent, cause... une action sur la girouette. Vous avez vu, elle tourne. D'abord, on dit des gens qui changent d'avis sans arrêt, c'est des girouettes. Hein? Ça tourne. Alors, de même, la moindre pensée entretenue consciemment produit dans votre inconscient une action réelle dans le monde de l'esprit et ça se répercute dans la réalité. L'action que vos pensées entretenues consciemment provoque sur votre inconscient, elle est proportionnelle à la profondeur du sentiment qui caractérise votre pensée. Quand on pense, ça provoque un sentiment. Si vous pensez à machin, que vous le détestez, que vous ne l'aimez pas, ça provoque un sentiment. Ça fait une trace en vous. Un sentiment. Si vous pensez à quelque chose d'agréable, là j'ai appris qu'avec la Michou, on est invité pour aller faire une grande fête dans le désert, au Maroc, avec des amis. Eh bien, on se réjouit de ça et quand je pense à ça, eh bien, je suis tout joyeux, je suis tout content, ça crée en moi un bon sentiment. C'est des choses qui sont bonnes. Et cela provoque sur l'inconscient, les pensées qu'on a, quelque chose de réel qui a une intensité qui est proportionnelle à ce que vous pensez. Les choses qui vous arrivent n'arrivent pas par hasard. Elles arrivent parce qu'elles ont été entretenues par vous consciemment dans votre pensée et puis ça finit un jour par se manifester. Heureusement, ça ne se manifeste pas tout de suite, mais ça finit par se manifester. Jésus dit que penser quelque chose, c'est important. C'est ce qu'on vient de lire là. Vous pensez à une femme, à un homme, vous pensez à quelqu'un qui vous excite, et puis vous pensez que vous couchez avec cette personne, vous avez des pensées comme cela, eh bien Jésus dit que ça revient à coucher réellement avec cette personne. C'est-à-dire, dans le monde de l'esprit, c'est comme si vous l'avez fait. Vous l'avez fait en réalité, c'est pas comme si, vous l'avez fait. Rien que le fait de penser. Devant Dieu, c'est fait. Alors, cela fait que rien que d'y penser, ça vous éloigne de la bénédiction de Dieu, puisque vous avez fait adultère. Ah, vous avez pensé, ça y est, c'est fait. Donc, ça vous éloigne de la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Cela ne fonctionne pas qu'avec la pensée d'adultère. Là, Jésus nous donne un exemple frappant pour qu'on s'en souvienne. Mais ça fonctionne avec toutes les pensées. Vous avez des pensées de vengeance. Eh ben, c'est comme si vous étiez vengé. Des pensées de haine, des pensées de meurtre, etc., etc. C'est comme si vous avez fait la chose. Vous pensez que vous prenez votre ennemi, que vous lui donnez un bon coup derrière la tête, que vous le ligotez, que vous le mettez dans le coffre de votre voiture, que vous l'emmenez dans une forêt, que vous le lardez de coups de couteau. Je vous dis, ah, si seulement je pouvais faire ça, mais ce n'est pas possible, si je fais ça, je vais me faire piquer par la police et tout. Mais qu'est-ce que ça me débarrasserait de ce crétin d'andouille et tout. Ben, si vous pensez ça, vous le faites en réalité. Grave, vous êtes un meurtrier. Tout ce que vous entretenez comme pensée mauvaise, c'est comme si vous le faites réellement. En fait, vous le faites réellement. Jésus dit, écoutez-moi, je répète, hein, ce n'est pas moi qui le dis. Et moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà, il l'a commis, il l'a fait. En fait, vous avez fait spirituellement, c'est-à-dire dans le monde de l'esprit, dans la dimension de l'esprit, pour Dieu, vous l'avez fait. Vous êtes rendu coupable de meurtre ou d'adultère ou de je ne sais quoi. Si vous avez entretenu en vous la pensée de zigouiller une personne parce qu'il vous a fait une vacherie, eh bien, vous voyez, la pensée a une très grande valeur et il ne faut pas mépriser ça. Parce que celui qui commet l'adultère, il est puni. C'est obligé. Si c'est un enfant de Dieu, en tout cas, il est puni. Dieu châtie les siens, les autres, bon. Mais Dieu châtie les siens. Quand vous pensez, quand une personne souhaite votre mort, au point même de penser que ça vient de, l'idée vient de Dieu puis qu'il la prophétise, il se rend coupable de meurtre. Il se rend coupable de meurtre. Comment voulez-vous qu'une telle personne soit bénie? Elle est livrée à elle-même. Pour ne pas dire à d'autres entités. Oh, elle ne va pas goûter immédiatement le fait d'être séparée d'avec Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu laisse toujours un temps pour la repentance. Mais regardez dans la nature, vous prenez une fleur, là je vois là, par la fenêtre un beau massif, je vois des roses magnifiques, bravo la Michou d'ailleurs. Prenez une fleur, elle est vivante. Coupez cette fleur, elle a toujours l'air vivante. Cependant, elle est coupée de la source de la vie et la mort est en train de faire son œuvre et ça va paraître. Vous voyez? Celui qui commet le péché, le ciel ne lui tombe pas sur la tête tout de suite, mais il finira bien par lui tomber sur la tête, à moins qu'il se repente. Alors, mais même s'il se repent, je vais vous expliquer des choses très profondes ce matin, parce qu'il y en a marre d'entendre toujours le diable m'attaque, les gens sont méchants avec moi, elle a l'air. Non. Il y a des choses, il faut être sérieux. Je vais vous expliquer. Dieu domine tout, c'est de lui que nous avons le mouvement et l'être, ça c'est ce que la Bible nous dit. La lumière est de lui, la chaleur est de lui, les couleurs sont de lui, même les ténèbres sont de lui, tout a son origine en lui. Cependant, toutes ces choses ne sont que passagères parce qu'elles ont été créées. Tout ce qui est créé doit être détruit un jour. Comme vous et moi, il n'y a que lui qui est éternel. Et pour avoir le privilège de demeurer éternellement, nous avons à remplir certaines conditions. Premièrement, croire qu'il existe. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Bon. Ensuite, croire que ce qu'il dit, c'est sérieux. Pas dire, ah ben non, ça c'était pour autrefois, ou bien, ah ben non, les apôtres se sont trompés, ou bien, oh pouf, il n'y a qu'un verset qui parle du baptême pour les morts, donc c'est pas vrai, ou bien, or. Et quatrièmement, il faut penser et agir comme il dit. Vous voyez ? Croire qu'il existe, croire que ce qu'il dit est sérieux, croire que ce qu'il dit est vrai, et faire, penser et faire comme il dit. Et si nos pensées sont en désharmonie avec les siennes, ne croyez pas que ce n'est pas grave. C'est grave. Vous croyez que ça aura aucune incidence dans votre vie? Si, ça aura une incidence dans votre vie. Dieu est la source de toute sagesse et de toute intelligence. Et il nous demande d'être intelligents, de sonder les Écritures, de sonder son cœur par le Saint-Esprit qu'il a mis en nous afin de devenir intelligent. Il faut être fou pour oser penser contrairement à ce qu'il pense. Non ? Haïr un ennemi, c'est de la folie. Mépriser une chose créée par Dieu, c'est de la folie. Je me rappelle d'une sœur qui vivait en communauté avec nous et qui détestait notre chien. C'est de la folie. C'est une créature de Dieu. On ne peut pas détester une créature de Dieu. Nous, on apprend aux enfants de ne pas écraser les fourmis. Je suis désolé, on n'est pas des hindous. On n'est pas des fanatiques. Mais c'est de la cruauté de faire des choses comme ça. Il faut leur apprendre la valeur de la vie, la valeur de ce que Dieu a créé. Hein, oui, Titi ? Bon, maintenant, si une abeille se pose sur vous, chassez-la. Mépriser une chose que Dieu a créée, c'est de la folie. Même si vous pensez que ce n'est pas bien grave. Oh, c'est pas bien grave de foutre un coup de pied au chien. Tiens ! Lis la Bible au sujet des relations que tu dois avoir avec les animaux, tu vas voir. Ce que vous pensez est une folie si c'est contraire à ce que Dieu pense. Quelqu'un vous fait du tort, vous pardonnez. Parce que Jésus a dit, pardonnez comme je vous ai pardonné. Il y a le mot comme. Nous devons pardonner comme lui, il pardonne. Alors, voyons un peu comment il pardonne. Ça vous intéresse de savoir comment il pardonne? Comment Dieu pardonne-t-il? Prenons un cas. Vous prenez un alcoolo, hein? Une personne qui boit plus que de raison, une personne qui fume, une personne qui mange gras. Un jour, cette personne vient à Dieu. Il demande pardon d'avoir abîmé son corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Ok, vous croyez que Dieu le pardonne? Oui, bien sûr, Dieu le pardonne. Mais l'ancien alcoolique est tenu de nettoyer ses artères bouchées. L'ancien alcoolique, vous voyez ce que je veux dire? Ce pécheur pardonné, s'il ne fait rien pour réparer son corps, il va souffrir des conséquences de ses abus d'autrefois. Dieu n'est pas tenu de déboucher ses artères. De temps en temps, il le fait, ça s'appelle un miracle. Mais nous avons, nous, la possibilité de le faire. Bon, déjà, premièrement, en cessant les excès. Ensuite, en se soignant. Ensuite, en se purifiant afin d'être pur entièrement. Sinon, il va payer. Tôt ou tard, il va payer. C'est comme ça. Vous dites, mais alors Dieu ne m'a pas pardonné. Si, tu as pardonné, mais toi, tu n'as rien fait pour te nettoyer. Vous comprenez? Ah, ça, c'est quelque chose. Et Dieu exige de nous que nous pardonnions comme il nous a pardonné. Donc, de cette manière-là. Ok, je pardonne mes frères et sœurs qui m'ont fait du tort, mais je ne suis pas tenu d'en faire plus. C'est à eux de réparer. C'est à eux de soigner la relation. C'est à eux de se purifier à mes yeux. C'est à eux de montrer, de faire la preuve que ce qu'ils ont fait de mal, eh ben, ils le regrettent et ils changent. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas pardonné? Si, j'ai pardonné. Mais maintenant, s'ils ne font pas tout ce travail, ben, ils vont payer. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis bien obligé de vous prêcher l'Évangile. Et la parole de Dieu, ce n'est pas de la rigolade. C'est une science. Vous voyez, s'ils pensent que je dois pardonner, le pardonner et que c'est suffisant, il se trompe. Il va payer. Vous devez reconnaître l'intelligence de Dieu. Vous devez la connaître et la reconnaître et l'admettre. Reconnaître son intelligence consiste à vous familiariser avec la qualité de sa sagesse à lui. Vous n'avez pas le droit de penser que. Vous êtes des enfants de Dieu, vous avez à vous comporter comme des enfants de Dieu. L'autre jour, avec la Michou, l'autre soir, on a regardé une émission sur Stephen Bern. C'est un péché de regarder une émission sur Stephen Bern ?
Non.
On a regardé une émission sur sa ville et il expliquait que sa mère était terriblement sévère avec lui et qu'elle l'a dégoûté, par exemple, du piano parce qu'aussitôt qu'il faisait une fauche, chaum, il lui foutait une gifle. À table, bam, il se prenait des baffes. S'il disait, c'était terrible pendant ses devoirs, c'était très dur. Mais il dit, je les remercie parce qu'aujourd'hui, ça m'a donné une éducation qui me permet de fréquenter les rois, les reines, les princes et les princesses, parce que je sais me tenir. Vous voyez, il s'est familiarisé avec la sagesse des grands. Et nous qui sommes enfants de Dieu, on n'a pas le droit de se comporter comme des va-nu-pieds. On doit apprendre à se comporter comme les gens de la famille de notre Dieu, qui est sage, qui est intelligent, qui est grand, qui est miséricordieux, mais qui est juste aussi, et qui a des principes. Tiens, encore quelqu'un qui est en train de payer une bêtise qu'il a faite, vous entendez ? Penser de plus en plus comme il pense, c'est très important. Et donc, il faut agir de plus en plus comme il agit. Mais on ne peut pas agir de plus en plus comme il agit si on ne sait pas comment il faut agir. Il faut apprendre et ensuite penser ces choses et puis agir. On n'est pas là à se laisser... oui, alors c'est bien. Ça, je vais laisser conduire par le Saint-Esprit. Oui, bon. Et puis, il ne lit jamais la Bible. C'est quoi ce cirque? Toutes ces choses sont élevées en sagesse et c'est très peu étudié dans les milieux chrétiens. On va vous parler de Bartimée, on va vous parler de Zachée, on va vous parler de la mer calmée, on va vous parler de toutes sortes de choses. Et très souvent, les pasteurs tirent des très bonnes morales de tout ça. Mais ces principes-là, ils ne vous les disent pas. Ils pensent en fait à la légère les plaies du peuple. Bon, hier, on a eu une visite, une sœur qui est fidèle dans son église, de la région parisienne, je ne vais pas dire son nom, parce que je ne veux pas salir son pasteur. Elle donne sa dîme depuis des années dans cette église. Elle a raison, c'est normal. On donne la dîme dans l'église où on va, c'est normal. Pourquoi ? Ben parce qu'il faut bien que l'église tourne. Hein ? Il faut bien que ça marche, il faut bien que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas sans argent. Donc, il faut bien qu'il y ait des dîmes qui rentrent. Et ceux qui disent... Et la dîme, c'est anti-biblique. Ben, c'est bien parce qu'ils n'ont pas d'église. Hein. Ils savent pas ce que c'est que l'église. Et puis voilà, c'est des gens qui pensent que... Mais voilà, donc, il y a 3 ans, cette sœur, elle a eu un cancer. Elle a subi une multitude de soins, de chimio, toutes sortes de souffrances. En plus, elle a chez elle sa maman qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle doit s'en occuper. C'est dramatique, c'est fatigant. Eh bien, son pasteur qui sait tout ça n'est jamais allé la voir, pas une fois en 3 ans. Il ne lui a jamais téléphoné, même pour prendre ne serait-ce que de ses nouvelles ou pour prier avec elle au téléphone. Jamais, 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 jamais. Finalement, elle s'est remise de son cancer, grâce à Dieu et grâce à la médecine, et puis elle est retournée dans son église. Bon, jusqu'à pas retourner, hein, mais elle est c'est une bonne brebis. Hein, elle est retournée dans son église. Et là, le pasteur descend de l'estrade et puis il va vers elle avec un bout de papier à remplir afin que l'église puisse faire des prélèvements automatiques de sa dîme sur son compte à elle. Quelle a été sa réaction? Je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner. Ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, ça provoque toujours des conséquences. Est-ce qu'elle n'a pas pardonné son pasteur ? Bien sûr qu'elle l'a pardonné, mais elle n'est pas tenue d'en faire plus. Elle ne lui donnera plus sa dîme jusqu'à ce qu'il ait prouvé qu'il a changé. Bravo cette sœur. Il faut leur tenir tête à cette bande d'imposteurs, de pasteurs. Foutoir. Elle la donne ailleurs. Elle ne me la donne pas à moi, je dis tout de suite. Hein. Pas que les gens pensent que... Je m'en fous ce qu'ils pensent, mais enfin, je veux dire, voilà. Enfin, elle ne me la donne pas à moi. Elle la donne ailleurs. Est-ce qu'elle a tort ? Non. Non, elle n'a pas tort, elle a raison. Ce pasteur a besoin d'apprendre à faire son boulot correctement. Voilà. Nous devons apprendre. Et comment est-ce que nous apprenons ? Soit par l'écriture, soit par l'expérience. Et ce pasteur, ben, il apprend par l'expérience maintenant. Nalaer. Bien fait. Dieu pardonne, mais c'est à nous de faire ce qu'il faut pour être en bonne relation avec lui. Et si vous croyez que vos pensées prédominantes n'ont aucun effet dans votre vie, vous l'apprendrez par l'expérience, et puis voilà. Vous ne croyez pas ce que je vous dis? Ben, vous l'apprendrez par l'expérience. C'est tout. Vous savez, il vaut mieux avoir affaire à Michel Janton qu'à Dieu, hein? Mais vous savez comment réagissent les chrétiens? Vous savez comment ils sont? Consciemment, ils entretiennent de la rancœur, de la jalousie, de la haine. Ah, et puis alors ça se diffuse doucement dans leur inconscient, et puis ça se transforme en circonstances désagréables, en maladies psychosomatiques, en dépression nerveuse, en tristesse de toutes sortes. Et ils disent « Mon bon frère, prie pour moi, le diable m'attaque. » Foutaise. C'est pas le diable. Ils ne font que de récolter ce qu'ils ont semé consciemment dans leur inconscient. C'est tout. C'est tout. En fait, ils mettent le diable au chômage, ils agissent tout seuls. Comment espérer récolter du blé quand on sème de l'ivraie? C'est pas possible. Comment récolter de bonnes choses si on sème des fausses prophéties, des accusations, des condamnations? Dieu vous pardonne, oui, mais c'est à vous de laver votre robe dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, 14. C'est ça qui est dit. Alors, quand ils prennent Apocalypse 7, 14, ils pensent que c'est les vierges folles dans la grande tribulation qui devront laver leur robe dans le sang de l'agneau pour pouvoir paraître devant Dieu. C'est faux. C'est les saints, ce n'est pas les vierges folles. Les vierges folles, Jésus dit, je ne vous connais pas. Les vierges folles, il les assimile à l'ivraie, aux hypocrites, aux paresseux, à toute cette sorte de personnes-là, et ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu, les vierges folles. C'est les saints qui passeront par la grande tribulation, c'est-à-dire nous. Et je crois que c'est déjà commencé, la grande tribulation. Ah oui, Michel, t'as déjà commencé? Ouais, ben on voit bien que tu vis en France, va un peu voyager dans le monde. Tu vas voir, dans la plus grande partie du monde, c'est l'horreur pour nos frères et sœurs. Ils se font couper la tête. Eh bien, ces gens-là, et nous aussi, nous lavons notre robe dans le sang de l'agneau. C'est pas le sang de Jésus qui nous purifie, c'est nous qui allons laver notre robe. Vous voyez? Alors, on m'accuse de ne pas pardonner. Ça fait partie d'une de mes des accusations qui est contre moi. Foutaise! Je pardonne et j'attends de voir les fruits que vont porter ceux que je pardonne. C'est-à-dire, je pardonne comme Dieu pardonne. Est-ce que vous comprenez? S'ils portent encore et encore et encore du mauvais fruit, je ne suis pas tenu de les compter parmi mes amis. Et en cela, je fais comme Jésus exactement. On a lu vendredi, Dieu il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Voilà. Ça ne veut pas dire que je ne les aime pas. Mais je ne vais quand même pas les bénir et puis les inviter à ma table et puis leur raconter tous mes projets. Et puis non, il y a une séparation qui s'est faite. Maintenant, c'est à eux de regagner ma confiance. Alors, il y a peu d'écoles bibliques qui ont capté le premier rayon de cette lumière-là. Il ne semble pas, ça ne semble pas leur être venu à la pensée, cette chose-là. Que la sagesse est présente partout, autant que la force, autant que la substance, tout ça, ça existe, c'est une réalité. Le monde de la pensée, c'est le monde de l'esprit, et le monde de l'esprit est plus réel encore que le monde matériel. Et si tu penses faire l'adultère, tu l'as fait. Si tu penses au meurtre, tu l'as fait. Comment voulez-vous que les gens soient, avec tout ce qu'ils pensent, qu'ils soient bénis? Ce n'est pas possible. Heureusement, Dieu est miséricordieux, mais il ne faut pas pousser trop loin quand même non plus. Alors tous ces gens-là, ils bricolent. Moi, j'ai fait 3 écoles bibliques. Ben, dans aucune de ces écoles bibliques, on apprend les lois de l'esprit. Dans aucune. Dans aucune. Ces principes, ils sont vrais et nous le prouvons. Nous obtenons des résultats exactement conformes à notre compréhension de la loi de l'esprit. et à notre capacité d'appliquer ces lois de manière appropriée. Prenez l'électricité. Là, je vois qu'on a rajouté une ampoule. C'est génial. Prenez l'électricité. Personne n'a obtenu de résultat des lois régissant l'électricité avant que quelqu'un explique cette loi. Oui ou non? Eh bien oui. Personne n'a obtenu de résultat des lois régissant l'électricité avant que quelqu'un nous montre comment l'appliquer. Cette personne, elle l'a découvert, puis elle l'a expliqué. Et puis il y a des gens qui ont dit, mais ça ne sert à rien. Michel, ce que tu dis là, ça ne sert à rien. Il faudrait mieux nous prêcher l'amour, la paix, la joie, le bonheur. Comment Jésus nous sanctifie en trois points. Non, je vous enseigne des principes du monde de l'esprit afin que vous ayez une vie magnifique pour la gloire de Dieu. La connaissance des lois, elles régissent le monde de la pensée. Le monde de l'esprit nous place dans une toute nouvelle relation avec absolument tout. La connaissance des lois de la pensée nous ouvre des possibilités que vous ne soupçonnez même pas. Mais les chrétiens, en général, sont les rois de l'incohérence parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de loi. On est sous la grâce. Et c'est Dieu qui agit comme il veut. On dirait qu'ils pensent que Dieu a des caprices et puis qu'on ne peut pas savoir comment il va agir. Qu'est-ce qu'il est capricieux. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Dieu nous demande de nous soumettre à ses bonnes lois et lui-même, il s'y soumet. Lui-même, il s'y soumet. L'incohérence. Depuis quelques années, il y a une doctrine qui dit que Jésus va revenir chercher son épouse en septembre 2015. Dans moins d'un mois. Je crois que c'est ça, je ne sais plus si c'est le 14, le 13 ou le 23, le 28, je ne sais plus. Ça a tellement d'importance pour moi que je ne sais plus exactement. Mais il fixe le jour, hein, le jour, la date précise. Bon, ok. Je connais des gens qui croient ça. Ce sont des amis. Et de toute façon, ils vont pas écouter mon message, donc je peux le dire. Hein. Puis, de toute façon, je ne vais pas dire leur nom, mais bon, si jamais ils écoutent, ils vont se reconnaître. Il y a quelques jours, une de ces personnes que je connais qui croit ça a écrit sur Facebook. Elle demandait de signer une pétition pour que cesse l'esclavage dans certains pays. L'esclavage est une abomination. C'est épouvantable. Il y a des millénaires que l'esclavage existe et c'est une abomination. C'est quelque chose d'épouvantable. Mais bon, puisque cette personne croit que Jésus revient dans moins d'un mois, pourquoi perdre son temps au sujet de l'esclavage? Un mois de plus, un mois de moins sur des milliers d'années. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incohérent. Qu'est-ce que ça va changer pour ces pauvres esclaves qu'on signe une pétition? Le temps que la pétition arrive là où il faut, le temps qu'on est en face des nouvelles lois, Jésus revient dans moins d'un mois. Alors, et puis l'Antichrist va venir, puis ça va encore être pire. Alors, excusez-moi! Vous allez dire que je suis cynique, que je suis moqueur. Non, je ne suis pas moqueur, je suis cohérent. Excusez-moi! Mais si moi, je croyais que Jésus revient dans moins d'un mois, je cesserais absolument toute activité. Je sortirai tout mon argent de la banque, j'irai vers tous vers tous mes amis riches et je ferai des collectes à tour de bras. J'achèterai les premières pages du Figaro Magazine, de VSD, du Nouvel Observateur, de Paris Match, du Monde. J'achèterai ça et je mettrai la population en alerte. Jésus revient en septembre 2015. Préparez-vous à sa rencontre. Repentez-vous. Je mettrai toute mon énergie, mon pognon là-dedans. Ça, c'est de la cohérence. Mais eux, non. Comme d'habitude, ils se lèvent le matin. Ils se lavent, ils bouffent leurs tartines, comme d'habitude, ils boivent leur café, comme d'habitude, ils vont travailler, comme d'habitude. Et le soir, ils se mettent devant leur clavier, puis Jésus revient. À qui? À leurs amis Facebook, qui savent déjà ça. C'est incohérent! Voilà, je l'ai dit. On va dire que je suis dur. Ils n'y croyaient pas vraiment. S'ils y croyaient vraiment, ils n'agiraient pas comme ça. Leurs actes ne sont pas cohérents. Et ça n'est pas en rapport avec ce qu'ils disent croire. Vous voyez, il y a de l'incohérence. Et ça, c'est vrai pour beaucoup d'autres choses dans l'Église, l'incohérence. Les actes ne sont pas en accord avec les croyances. Comment voulez-vous que Dieu bénisse ça? Mais comment voulez-vous? Il y a scission entre le conscient, c'est-à-dire le monde bien matériel, et l'inconscient, qui est le monde de l'esprit. L'esprit, il est créateur. Nous sommes à l'image de notre Père, créateur. Notre esprit est créateur, créateur des circonstances que nous vivons. Et pour ma part, je suis très content de vivre ce qu'on est en train de vivre. C'est un moment excitant de ma vie. Parce que notre avenir va être meilleur que notre passé, et beaucoup mieux que notre présent. J'ai toujours voulu le mieux, toujours voulu le mieux. Quand on habitait dans notre petite maison là, je crois que c'était 14 rue Recoura, c'est ça ? 44 rue Recoura, c'était tout petit, allez voir, au Péreux, c'était minuscule. Je disais, un jour j'aurai un château, je recevrai des gens, on vivra ensemble, et ceci et cela. Et il disait, mais t'es fou, Michel, t'es la folie des grandeurs. Ben, ça fait 26 ans qu'on y est maintenant dans le château. Puis eux, ils sont toujours dans leur HLM. Puis ils disent, mais est-ce que t'as de la chance? Ouais. J'ai toujours voulu le mieux. J'ai toujours pensé le mieux et j'ai toujours agi en vue du mieux. Est-ce que ça veut dire que je suis parfait? Non, je fais des âneries aussi comme tout le monde, bien sûr. Mais les résultats sont là. Le problème, c'est que mes pensées se heurtent aux pensées étriquées des peureux et des frileux. Alors je pourrais être désespéré en disant, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Mais je me suicide et j'en ai marre. Ben je suis pas désespéré. Pourquoi? Parce que je sais que moi, je vais récolter ce que j'ai semé, puis c'est tout. Et les paresseux, les frileux, les timorés, les super saints, n'est-ce pas, récolteront ce qu'ils ont semé. Puis ils vont être contents. Ils vont être contents. Ils sont déjà contents. Donc tout est bien. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas le cas, ça ne serait pas vraiment paradisiaque. Ni pour eux, ni pour nous, vous voyez? Le principe sur lequel repose cette loi de la pensée, ce principe, il est saint, il est légitime et inhérent à la nature des choses et des gens. C'est comme ça. Ce pouvoir créateur de notre pensée, il ne provient pas de l'individu. Rappelez-vous, je vous ai dit au début, et la Bible le dit, c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne le mouvement et l'être. Ce n'est pas inhérent à l'individu. C'est pourquoi je ne juge pas négativement ceux qui me font du tort. Je juge, mais je ne condamne pas. C'est ça que ça veut dire, je ne juge pas négativement. Je juge que c'est bête, mais bon, je ne condamne pas. Je ne les condamne pas. Je ne souhaite pas qu'ils meurent avant la fin de l'été. Non, ce pouvoir créateur ne provient pas des individus. Il provient de Dieu, qui est la source de toute énergie et de toute substance. Ils sont comme Dieu les a faits. Les individus que nous sommes sont juste des canaux de distribution de cette énergie. Les individus sont le moyen par lequel Dieu produit les diverses combinaisons qui se traduisent dans la formation des phénomènes, des événements et de toutes les situations. C'est Dieu qui tient tout dans ses mains. Alors, on ne se casse pas la tête, on reste calme, on reste confiant. C'est là que se trouve notre force, dans le calme et la confiance. Nous ne murmurons pas, ça ne sert à rien de murmurer. Ça vous fait plus de mal à vous que de bien. Ne murmurez pas, ne vous plaignez pas. Pensons comme Dieu pense, agissons comme Dieu agit, pardonnons comme Dieu pardonne, et puis regardons. 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 Regardons les portes magnifiques qui s'ouvrent devant nous. Regardons les gens magnifiques qui se joignent à nous. Ils ne sont pas magnifiques? Ne regardez pas les portes qui se ferment et les gens qui s'éloignent, ça ne sert à rien, on s'en fout. Dieu dit « J'aime ceux qui m'aiment, faisons comme lui ». regardons les nouvelles personnes que nous avons rencontrées et que, voilà, et on apprend à les connaître, ils apprennent à nous connaître et nous les aimons. Et laissons ceux qui ne nous aiment pas faire ce qu'ils veulent. Ça ne signifie pas qu'on nous les aimons pas. C'est eux qui ne nous aiment pas. Nous, ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, on les aime. Ça signifie juste que nous leur souhaitons le bonheur sans nous, puisqu'ils ne peuvent pas être heureux avec nous. Vous voyez ? On leur souhaite le bonheur sans nous, puisqu'ils ne nous aiment pas. Puis, ils ne nous aiment pas, puisqu'ils nous ont dit « on ne vous fait plus confiance ». Ben voilà, quand on ne fait pas confiance à quelqu'un, on n'aime plus. Hein. Mais nous, nous les aimons. Alors séparons-nous d'eux pour leur bien. Vous voyez comment il faut penser ? L'Éternel est notre berger, il nous conduira dans de verts pâturages, pas dans des pavillons de banlieue, ni dans des HLM, ni dans des maisons de fonction. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous le croyons. Tout simplement parce que nous pensons que Dieu est comme ça. Parce que nous le croyons. Parce que nous agissons en conséquence. La cohérence, ça s'appelle la cohérence. Seigneur, permets-nous d'être toujours cohérents. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche, vous avez vu, ça fait venir le soleil, ma prédication. Il fait beau maintenant, on va aller pouvoir manger dehors. C'est bien. Dieu vous bénisse, à bientôt, au revoir.